feuilleter les hebdomadaires et les magazines avec vous, Sébastien Duhamel. Bonjour.
Bonjour à tous.
À la une, attention, secret défense.
Eh oui, il a du bon, c'est certain. Le secret défense, il peut protéger, mais il peut aussi parfois mettre en danger. Vous vous souvenez probablement de Mohamed Merah, auteur d'une attaque contre une école juive en mars 2012, l'assassin de 7 personnes à Toulouse et à Montauban. Vous vous souvenez peut-être également du père Jacques Hamel, assassiné en 2016 dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Eh bien, figurez-vous que ces attaques, aussi dramatiques soient-elles, pouvaient probablement être évitées. C'est ce que nous apprend Marianne cette semaine. Oui, le secret défense a retardé l'identification de Mohamed Merah, par exemple. Une note alertait déjà sur sa dangerosité avant l'attentat, mais elle était classifiée. Dans le cas du père Jacques Hamel, explique encore Marianne, les services de renseignement avaient repéré la menace, identifié l'un des auteurs en amont, mais les informations classifiées, là aussi, ont circulé trop lentement. On peut encore citer le cas Amédi Coulibaly, exécuteur d'une policière et de 4 otages à l'hypercachère de la porte de Vincennes en janvier 2015. Il portait des armes vendues par un informateur de la gendarmerie. Alors, par quel enchaînement se sont-elles retrouvées entre les mains du tueur ? Les échanges entre le trafiquant et les gendarmes le diraient peut-être, mais ils sont, devinez quoi, classifiés.
Et c'est pourquoi certains dénoncent la dérive du secret défense.
Et oui, conçu pour faciliter le travail de la police et du renseignement, sa lourdeur finit parfois par leur compliquer la tâche, déplore Marianne. Même les spécialistes du renseignement en conviennent. La situation n'est plus tenable, à l'image de Pascal Jouary qui publie l'ouvrage « Secret défense, le livre noir ». Il propose notamment la création d'une instance indépendante habilitée à lever le secret au cas par cas. Il souligne l'inflation du secret défense à tous les niveaux, pas uniquement en matière antiterroriste. Il regrette par exemple que les décisions clés de la gestion du Covid soient classées pour des décennies. En effet, les délibérations du Conseil de défense sanitaire d'Emmanuel Macron qui a géré cette crise sont normalement confidentielles pour les 50 ans à venir. Et 50 ans, ça peut être très long.
Toujours est-il que le secret défense est parfois indispensable.
Et on ne parle pas évidemment ici d'Éric Ciotti, candidat à l'investiture LR pour la présidentielle, qui vend cette semaine dans Le Point son idée de Guantanamo à la française en Outre-mer, une sorte de nouveau bagne de Cayenne. Non, paré au décollage, Andréane. Voilà qui devrait faire plaisir à notre spécialiste Franck Alexandre et à tous les férus des questions militaires. Aujourd'hui en France, Weekend nous emmène dans les coulisses de l'armée de l'air. Visite du Centre National des Opérations Aériennes. Un lieu secret qui ne se dévoile presque jamais au cœur d'une zone de défense hautement sensible, nous dit le magazine. C'est la base 942 Lyon-Montverdun. Elle s'étend sur plusieurs hectares, lit-on, comme un campus perdu dans la forêt des Monts d'Or. Une petite ville calme, avec ses routes goudronnées, ses 1300 militaires, ses logements, son gymnase, sa piscine, sa cantine. Mais l'apparente tranquillité de cette base 942 est inversement égale à l'importance stratégique du lieu, signale aujourd'hui en France, car à 135 mètres sous terre se trouve aussi un bunker ultra sécurisé, le cœur des opérations, là où les militaires surveillent constamment les quelques 11 000 aéronefs qui survolent le ciel français chaque jour. Les drones sont compris dans ce chiffre et c'est aussi sur ce site, Andréane, que sont pilotées les opérations de l'armée de l'air hors du territoire français.
Conséquence d'un grand secret, la presse nous présente aussi cette semaine, Sébastien, les premières victimes de la perte du contrat du siècle.
Et ceux qui paient les pots cassés après la vente annulée de sous-marins à l'Australie. Ceux qui s'efforcent depuis de surmonter la direction et les employés de Naval Group, c'est le magazine des Échos qui nous les présente. Alors que Paris et Washington se sont réconciliés, reportage à Cherbourg et l'ambiance est toujours loin d'être à la fête, là où devaient être produits les 12 sous-marins, possiblement jusqu'en 2050. C'est un choc inattendu, tout était prêt. Sur place, les 5000 salariés l'ont appris le jour même, comme tout le monde. Ironie du sort, souligne les Échos, ce funeste mercredi du 15 septembre, quand on a appris la rupture du contrat. Le groupe français venait justement de recevoir le matin un courrier validant la définition technique du projet. Une scène surréaliste aussi, digne d'un film. Ce jour-là, le patron du site et la DRH apprennent la nouvelle une heure avant de monter sur scène pour un show axé précisément sur le contrat avec l'Australie et prévu avec des Australiens. Et oui, car il y avait déjà des partenaires australiens sur place qui l'ont découvert eux aussi comme tout le monde. Ce soir-là, nous disent les Échos, ils étaient d'ailleurs plusieurs dizaines à débarquer au Bayou, le pub du coin, pour boire, pour oublier. La fin de ce contrat signifiait pour eux la perte de leur travail. Résultat, le lendemain soir, ils étaient même deux fois plus nombreux à boire des pils au comptoir.